Bien, donc nous continuons. Nous étions rendus au chapitre 8 de l'Apocalypse, à la fin du chapitre, précisément au verset 13. Donc nous sommes dans le septennaire des trompettes. Septennaire qui se termine au chapitre 11. Et nous avions remarqué les correspondances qu'il est légitime d'établir avec le septennaire des coupes de la colère de Dieu, les coupes qui versent le vin de la colère de Dieu, au chapitre 16. Et nous avions vu les quatre première sonnerie de trompette et ce qu'elle signifiait, et les quatre coupes de la colère divine. Donc, nous avions vu que les sept trompettes données aux sept anges de la présence, qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait que ces trompettes donnaient le signal des fléaux qui s'abattent, qui vont s'abattre plus exactement sur le monde, avec toutefois, nous l'avions remarqué également, une retenue tout à fait caractéristique. Pourquoi ? Parce que ça laissait la place, de par la miséricorde divine, à la possibilité de la conversion, à la possibilité du retournement des cœurs endurcis avant que les décrets divins du jugement du monde soient intégralement appliqués. Bon, ça nous l'avions vu. Et en mettant en regard au chapitre 16 qui concerne le septennaire des coupes, je rappelle, il s'agissait jusqu'à maintenant des quatre premières coupes, nous avions vu que si l'effet des fléaux décisifs dans le septennaire des trompettes était partiel, avec l'insistance sur la notion de tiers qui montrait, je veux dire, le caractère partiel de ces fléaux pour un temps, en revanche, dans celui des coupes, il est total. De sorte que il est légitime de mettre en parallèle l'ensemble qui est constitué par les chapitres 8, à partir du verset 6, jusqu'à la fin, et les chapitres 9, 10, 11, et le chapitre 16, qui, lui, est consacré au septennaire des coupes. Pourquoi c'est légitime ? De fait, parce qu'il y a une continuité thématique entre tout cet ensemble de chapitres de l'Apocalypse. Non pas des continuités chronologiques, mais des continuités thématiques. Et on le verra aussi dans d'autres ensembles littéraires du livre de l'Apocalypse. Il n'y a pas de continuité, ou il n'y a pas de continuité chronologique, mais thématique. Donc, en poursuivant le parallélisme entre ces deux ensembles littéraires, eh bien, nous avions remarqué que les fléaux annoncés et leur accomplissement partiel, je le répète, puis total dans un deuxième temps, concernaient quoi ? Ben, ils concernaient en premier lieu les éléments de la création. Ils introduisaient dans ces éléments de la création, un bouleversement suffisamment important pour que la vie et sa pérennité soient profondément altérées. Je le rappelle, étaient concernées la terre, la mer, les eaux douces, donc les eaux des sources, les eaux des rivières, puis, le quatrième élément, les astres. Donc, par la symbolique du chiffre 4, on sait que son évocation permet de considérer l'ensemble de la création. Et ce faisant, nous avons vu également que il y a des renvois aux plaies d'Égypte. On peut mettre ce récit en regard également avec les plaies d'Égypte que l'on trouve dans le livre de l'Exode. Pour autant, je l'avais dit, donc je le répète, il ne s'agit pas d'une simple répétition de ce que nous voyons dans le livre de l'Exode s'agissant des plaies d'Égypte. Ici, on monte plus haut, si je puis me permettre cette expression, puisque ces fléaux qui effectivement, par bien des côtés, nous rappellent les plaies d'Égypte, eh bien, ces fléaux-là déclenchent le jugement du monde. Ces fléaux-là ont un caractère nettement eschatologique, alors que les plaies d'Égypte n'avaient pas ce caractère eschatologique. Elles étaient destinées à frapper les ennemis du peuple choisi, elles étaient destinées à faire fléchir le Pharaon pour laisser partir Israël d'Égypte. Alors, à la fin du chapitre 8, au verset 13, il y a comme une interruption dans la suite du récit, courte interruption dans la suite du récit, avec l'évocation de l'aigle qui volait au zénith, aigle qui est porteur d'un message divin, et on retrouvera d'ailleurs dans le chapitre 14, au verset 6, cette fois-ci, non plus sous la forme d'un aigle, mais d'un ange, qui aura la même fonction que l'aigle à la fin du chapitre 8, de crier, de proclamer d'une voix forte un message divin. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, ce message divin, à la fin du chapitre 8? Eh bien, il annonce un triple malheur, trois malheurs aux habitants de la terre à cause des sonneries des trompettes, dont les trois anges, dont les trois anges vont sonner, hein, bien sûr. Alors, on remarque que à partir, parce que ça sert en même temps d'introduction au chapitre 9. Et là, l'intensité dramatique va monter d'un cran avec l'évocation par la figure de l'aigle des trois malheurs qui vont se succéder. Cette fois-ci, pourquoi l'intensité dramatique va monter? Eh bien, parce que précédemment, les quatre premières sonneries concernaient l'altération des éléments de la création, comme je l'ai dit, mais là, avec les trois derniers fléaux, l'enjeu des trois derniers fléaux, ce ne sont plus les éléments de la création, mais ce sont les hommes eux-mêmes. Et lorsque la vision prophétique de Saint Jean parle des hommes, ne sont pas concernés ceux qui sont marqués au front du sceau d'appartenance à Dieu, mais sont concernés les idolâtres, ceux qui sont marqués du sceau, du signe, de la bête. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Alors que les versets 6 à 12 du chapitre 8 décrivaient, ça c'est caractéristique également, décrivait assez sobrement les fléaux qui s'abattent sur la terre, la mer, les eaux douces et les astres, avec le chapitre 9 qui décrit ceux qui vont frapper directement les hommes, il s'agit de ceux qui sont annoncés donc par les 5e, 6e et 7e trompettes. Dans les trois cas, en étant, en faisant une lecture attentive du texte, on voit que la description est plus ample. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au début du chapitre 9 ? Je cite « Le cinquième ange fit sonner sa trompette, je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. » C'est le premier verset du chapitre 9. On peut remarquer que cette étoile qui est précipitée du ciel sur la terre, eh bien, elle est personnifiée. Elle est personnifiée quand on est attentif au texte et sous la figure de l'étoile, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la chute d'un ange qui a reçu la clé de l'abîme, et c'est cela qui est décrit. Alors, je rappelle, parce que je l'ai dit tout au long de l'année, que l'intelligence du livre de l'Apocalypse nous conduit aussi à considérer bon nombre de textes appartenant à l'apocalyptique juive. Il est bon de ne pas ignorer ces textes. Ce thème de la chute de l'ange sous la figure de l'étoile, eh bien, on le retrouve à des degrés divers dans divers ensembles de récits apocalyptiques. Pareille chute, par exemple, on la retrouve dans l'Apocalypse d'Élie. C'est un texte que vous pouvez trouver dans un ensemble que j'ai déjà cité, à savoir les écrits intertestamentaires qui sont parus à la NRF dans la collection La Pléiade. Et au troisième chapitre, qui décrit la manifestation de l'Antichrist et de l'opposition d'Élie et d'Enoch, à l'Antichrist, il dit, je cite, « Alors Élie et Enoch, entendant que l'impudence est manifestée dans le lieu saint, descendent pour le combattre en disant, n'as-tu donc pas honte de te joindre aux saints, alors que tu es un étranger en tout temps ?» Et le vocable étranger désigne ici celui qui ne se joint pas à Dieu. Donc celui qui est étranger à Dieu, à sa révélation et à sa manifestation. Alors, je poursuis la lecture de l'extrait. Tu es devenu l'ennemi des célestes, et tu l'es devenu des terrestres. Ennemi, c'est aussi une expression qui sert de titre à l'Antichrist. Dans le quatrième livre des Maccabées, par exemple, au chapitre 11, on le trouve sous cette forme, mais étranger à Dieu, tu fais la guerre à ceux qui honorent Dieu. Et le vocable ennemi dans l'ascension d'Isaïe, eh bien, il est appliqué à la titulature du prince du mal. Je poursuis, tu es devenu l'ennemi des trônes, tu l'es devenu des anges, tu es un étranger en tout temps, tu es tombé du ciel à la manière des astres du matin. Donc c'est au chapitre 3 de l'Apocalypse d'Élie. Ça me rappelle, et je le cite, ça me rappelle l'expression « se joindre à Dieu ». Cette expression est plusieurs fois mentionnée dans l'Écriture sainte, dans le Deutéronome au chapitre 11, dans le quatrième livre des règnes, donc le deuxième livre des rois dans la Bible massorétique, chapitre 18, dans les psaumes également on la retrouve, et se joindre à Dieu, ben, ça désigne le fait de s'attacher à lui et d'adhérer à sa parole, à sa vérité révélée. Par raisonnant, je dirais, souvenons-nous de ce qui est demandé aux catéchumènes au baptême. Par trois fois, on lui pose la question « T'es-tu joint au Christ ?» Alors, cette figure de l'astre qui est personnalisée et qui est le véritablement symbole d'un ange déchu, nous la trouvons en Luc, l'évangile de Saint-Luc au chapitre 10, le verset 18, lorsque le Christ déclare « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et on la retrouve en Apocalypse 12, verset 9 et suivant, lorsqu'il est dit « On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Apocalypse 12, verset 9. Alors, cet astre personnifié, c'est donc bien une figure angélique déchue du monde céleste. Et à cet ange déchu du monde céleste, qu'est-ce qu'il est donné? Eh bien, il est donné la clé du puits de l'abîme. Dans quel but? Eh bien, de l'ouvrir. Et on va voir pourquoi. D'abord, qu'est-ce que ça signifie, ce mot « abîme » ? L'abîme, ça traduit l'hébreu « tehom ». Et ça nous renvoie à quoi ? Ça nous renvoie au domaine hostile et ténébreux des eaux souterraines. Les eaux souterraines, c'est comme la mer dans l'écriture de l'Ancien Testament. Ce sont les figures du monde hostile à Dieu, du monde qui ne connaît pas Dieu, qui refuse de le connaître et donc, par conséquent, qui lui est hostile. C'est un lieu où séjournent des esprits rebelles. C'est un lieu d'enfermement, d'emprisonnement, où séjournent des esprits rebelles, pour un temps limité, et dans l'attente du jugement dernier. C'est donc un lieu qui est clos, puisqu'il faut l'ouvrir avec une clé. C'est un lieu qui est clos de par la volonté de Dieu, hein, bien sûr. Et saint Pierre, dans sa deuxième épître, ce théom hébreu, cet abîme, il le nomme Tartare. Je cite « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. » C'est donc dans la deuxième épître de saint Pierre, chapitre 2, verset 4. Alors, il faut tout de suite noter que, pour provisoire qu'il soit, ce théom, cet abîme, ne réserve pas un sort meilleur quand viendra sa fin, ne réserve pas un sort meilleur à ceux qui y sont enfermés, puisqu'il est dit, en Apocalypse, chapitre 20, verset 10, verset 10a, il est dit à ceux qui sont enfermés, ils seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on suit notre récit? Bien, l'ouverture de l'abîme va provoquer des catastrophes. Hein, nous l'avions vu précédemment. cette idée déjà dans les chapitres antérieurs. Et là, l'ouverture de l'abîme va produire des catastrophes. On parle d'une fumée semblable à celle qui émane d'une grande fournaise. On parle de l'obscurcissement du soleil et de l'air. Et surtout, de cette fumée sort une très grande armée de sauterelles qui se répandirent sur la terre. Cette idée de sauterelle dévastatrice, bien sûr, nous la trouvons dans la huitième plaie d'Égypte. Je cite, « Les sauterelles s'élevèrent au-dessus de tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout son territoire. Une telle masse de sauterelles qu'il n'y en eut jamais autant, avant comme après. Elles recouvrirent tout le pays qui en fut obscurci. Elles mangèrent toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres restés après la grêle. » Autre plaie d'Égypte. Il ne resta rien de vert sur les arbres et dans les prairies de tout le pays d'Égypte. C'est Exode 10, les versets 14-15. Mais dans le contexte du fléau qui résulte de la sonnerie de la cinquième trompette, évidemment, on n'est pas en présence. Là, ce n'est pas une simple réminiscence de la plaie d'Égypte qui concerne les sauterelles, c'est-à-dire la huitième plaie d'Égypte. Là, dans ce contexte, qui résulte de la sonnerie de la cinquième trompette, ce n'est pas simplement une invasion d'insectes de ce type, dont on sait par ailleurs que l'immensité des dégâts qu'ils peuvent provoquer. Là, il s'agit de puissances infernales. Ce ne sont pas les insectes naturels dont on parle dans la huitième plaie d'Égypte. Ce sont des puissances infernales qui sont libérées pour exercer leur pouvoir de destruction. On pourrait dire que c'est l'accomplissement eschatologique de la huitième plaie d'Égypte, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Exode. Et chez un autre prophète, chez le prophète Joël, justement, il y a une description au premier chapitre, une description qui est très réaliste du fléau causé par l'invasion d'insectes et de guerriers qui vont attaquer et transformer de fond en comble la vigne du Seigneur, qui est Israël. La vigne du Seigneur, ça désigne Israël, chez le prophète Joël. Transformer de fond en comble cette vigne du Seigneur, et la transformer en quoi ? En un désert. Et cette description, elle est prophétie du fléau qui va s'abattre de par la colère divine. Fléau eschatologique, nous dit le prophète Joël, parce que elle est le prélude à l'avènement de quoi ? On l'a déjà vu, à l'avènement du jour du Seigneur. Et donc, relisez les deux premiers chapitres de la prophétie de Joël en ce qui concerne cet élément. Revenons à notre texte, si vous voulez bien. Cette armée de sauterelles, elle a plusieurs caractéristiques. Elle a un roi, un chef, qui est nommé à la fois, dont on connaît le nom à la fois en hébreu et en grec. Et à la fois le nom hébreu et le nom grec ont, quant au fond, la même signification. Alors, qui est ce roi ? Eh bien, c'est l'ange de l'abîme. Quel est son nom ? En hébreu, il est nommé, comment ? Abaddon. Et vous le retrouverez, d'ailleurs, dans le livre de Job, au chapitre 28, dans le livre des Proverbes au chapitre 15. Ce nom renvoie à une signification qui est celle du séjour des morts, du Sheol, du séjour des morts. Et en grec, Apollyon, de Apolleia, perdition, destruction. Donc, c'est la même signification en fait. Ça nous renvoie à ces deux idées fondamentales de perdition et de destruction. Alors, en suivant le texte du chapitre 9, nous voyons que ces sauterelles qui sont dirigées par un roi, eh bien, elles sont d'un genre tout à fait particulier, tout à fait singulier. Je cite « Les sauterelles semblables à des chevaux, ayant été préparées pour la guerre et sur leur tête comme des couronnes, semblables à de l'or, et leurs faces comme des faces humaines, et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents comme celles des lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux courant au combat. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des dards, et dans leur queue, elles ont le pouvoir de nuire aux hommes durant 5 mois. » C'est donc la citation d'Apocalypse 9, les versets 7 à 10. Alors, la répétition des deux mots que vous avez entendus, semblables au pluriel par trois fois et 5 fois de comme, eh bien, ça montre bien le caractère indicatif de la description. Mais, pour autant, on retrouve aussi dans cette description des éléments comparables à ceux qui sont cités dans la prophétie de Joël, et en particulier celle des dents de lion. Alors, cette description symbolique extraordinaire, les comme et les semblables montrent bien qu'il y a quelque chose qui échappe, qui nous échappe tout de même. Eh bien, montre que ces sauterelles d'un genre particulier ont un grand pouvoir destructeur. Et ça montre aussi qu'ils obéissent à un ordre. Et seuls les hommes qui ne portent pas sur eux le sceau, la marque d'appartenance à Dieu, sont l'objet du fléau, à l'exclusion des autres éléments de la création. Il est bien dit, vous ne toucherez pas. Alors, je vais retrouver 7-10. Verset 4, « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » En même temps, il faut souligner, on est encore dans le registre des signes annonciateurs et dans une durée limitée de temps, les 5 mois. D'ailleurs, ça correspond, je crois, à la période de vie d'une sauterelle, du printemps à l'automne, 5 mois. Mais là, ce n'est pas employé dans ce sens, c'est une limitation de temps qui indique que on est encore dans, dans ce qui est annoncé, il y a encore place pour un éventuel retournement, comme je l'ai dit. Et il est bon de le répéter, puisqu'on le retrouve à chaque fois. Toutefois, les tourments sont suffisamment importants pour que, ça c'est un verset très important, il est dit « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. » C'est le verset 6 du chapitre 9. Il est fait référence au scorpion, et je rappelle que le scorpion appartient symboliquement au registre du monde démoniaque. Et le fait que ces insectes véritables, qui sont de véritables puissances infernales, puissent infliger des destructions et des tourments aux hommes sans les tuer, avec leurs dents et les dards de leur queue, dans la mesure de l'étendue du fléau. De plus, ces créatures démoniaques, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont douées d'intelligence, parce qu'elles obéissent à l'ordre donné de faire du tort seulement aux hommes qui ne portent pas sur le front le sceau de Dieu. Alors si on met le fléau qui est décrit dans cette cinquième trompette avec, si on met en correspondance, le fléau de cette cinquième trompette avec la cinquième coupe, donc du troisième septennaire, d'abord on fait une première remarque, c'est que le récit dans ce cas-là, il est beaucoup plus bref. Je cite, le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête, son royaume en fut plongé dans les ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Chapitre 16, verset 10-11. Donc, dans les deux cas, il est question d'une domination démoniaque, de souffrance, d'obscurcissement. Et si les fléaux infligés en 9, versets 1 à 12, avaient une limite de temps, là, dans la cinquième coupe de la colère divine répandue sur le trône de la bête, a une conséquence, c'est que son royaume tout entier est plongé dans les ténèbres. Et là encore, nous retrouvons les plaies d'Égypte, dans la circonstance la neuvième. Je cite, « Moïse étendit sa main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut des ténèbres opaques sur tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne vit son frère, ni ne bougea de sa place, mais tous les fils d'Israël avaient de la lumière là où ils habitaient. » C'est en Exode 10, versets 22 et 23. Alors cependant, ici, en Apocalypse 16, il n'y a plus de limitation de durée. Les plaies de l'Exode, comme nous l'avons vu, étaient des avertissements de Dieu lancé au Pharaon pour laisser sortir les Hébreux. Ici, on est dans le cadre de l'exécution des décrets divins pour le jugement du monde. Le trône de la bête est frappé, nous est-il dit. Ça nous renvoie à une thématique précise sur laquelle je reviendrai dans un cours ultérieur parce que c'est lié à plusieurs chapitres. Il y a une interpénétration des thématiques, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse, et cette histoire de la bête qui monte elle-même, là c'est la bête de la terre dont il s'agit, qui monte elle-même de la mer c'est la bête de la mer, le dragon qui l'a fait surgir. Eh bien, le trône de cette bête de la terre, montée de la mer, qui, je le rappelle, est le lieu des ténèbres, un lieu d'hostilité radicale à Dieu. Et cette bête, elle a reçu, elle tient sa légitimité du dragon de la mer, elle tient sa légitimité et son autorité du dragon de la mer, du Satan. Eh bien, cette bête est frappée et c'est son royaume tout entier qui, par l'effet du versement de la cinquième coupe, est livré aux ténèbres. Et déjà dans la prophétie de Daniel, je rappelle, là encore, c'est une redite, mais c'est bon de le rappeler, que sans cesse, on peut faire, à partir de la lecture du livre de l'Apocalypse, on peut faire des renvois à tous les thèmes apocalyptiques que l'on trouve chez les grands prophètes d'Israël, qu'il s'agisse donc d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel ou de Daniel. Et en la circonstance, là déjà dans la vision du prophète Daniel, donc en chapitre 7, il y avait quatre bêtes qui symbolisaient les empires babyloniens, Mèdes, Perses et Grecs, enfin celui d'Alexandre. Ici, nous dit-on dans de nombreux commentaires, la bête signifie l'Empire romain, mais ça n'est pas là une signification symbolique qu'il faut limiter à des circonstances historiques bien précises, parce que sinon le livre de l'Apocalypse perdrait très largement son actualité dans le temps de l'histoire des hommes. Donc au-delà, c'est l'histoire de, dans l'histoire humaine, c'est tout empire qui est construit sur le fondement de l'hostilité à Dieu, à sa révélation, à son Christ, à ses prophètes et à sa vérité. Mais on reviendra dans un cours ultérieurement sur ce thème de la bête de la mer, la bête de la terre, et son serviteur, le faux prophète, tels qu'ils sont évoqués au chapitre 13. Je me limite pour le moment au thème à la mise en regard des thèmes développés dans les sept trompettes et dans les sept coupe du jugement de Dieu. Alors, dans la sixième trompette, il nous est dit qu'une voix venant des cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu, l'autel d'or céleste qui est comme l'archétype de celui du temple de Jérusalem. Parce que je rappelle que dans le récit de la construction du temple de Jérusalem, le modèle est révélé à Moïse. Le modèle est révélé. Ce n'est pas une construction qui procède simplement d'une décision d'homme, mais Dieu révèle le modèle du temple qu'il veut voir construit à Jérusalem, et lequel temple est le lieu d'habitation de la Shekinah, donc de la présence. Cette voix disait au sixième ange qui tenait la trompette: libère les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. On libéra les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour et le mois de l'année, où ils devaient mettre à mort le tiers des hommes. Donc c'est les versets 14 et 15 du chapitre 9. Ça nous indique qu'il y a plusieurs catégories d'anges, bien sûr. Il y a les anges fidèles, nous l'avions vu au début du chapitre 7, qui sont des serviteurs de Dieu. Chapitre 7, je rappelle, c'est le chapitre qui est consacré au marquage du sceau de Dieu sur le front des élus. Ici, donc, la situation, elle est différente. Ce sont des anges rebelles qui sont retenus captifs sur l'Euphrate. Alors, la notation géographique est intéressante parce que l'Euphrate, finalement, c'est la limite orientale, c'est en quelque sorte la frontière de l'Est de la terre que Dieu avait donnée au peuple choisi. Le pays donné à Abraham, qui n'est pas encore Abraham. Pays donné à Abraham, promis et donné à Abraham lors de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Abraham, alliance qui est à l'initiative unilatérale de Dieu, bien sûr. Je cite, « En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Genèse 15, verset 18. Je rappelle, quand on parle d'alliance, hein, c'est toujours à l'initiative de Dieu. C'est pas semblablement au schéma des alliances conclues entre deux puissances, entre deux parties contractantes égales entre elles. Hein. Bien sûr, là, les alliances sont à l'initiative de Dieu. Et l'histoire d'Israël montre justement que c'est de ces régions au-delà du fleuve Euphrate sont venus beaucoup de dangers et d'invasions dont pâtiront le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord et ultérieurement, le royaume de Juda. Alors ces anges sont captifs, ils vont être libérés. Pour quoi faire ? Mais pour exercer le châtiment et mettre à mort le tiers des hommes, vous est-il dit. Cette indication de quantité, nous l'avions déjà vue dans les chapitres précédents, nous l'avions vu fonctionner et nous avions vu sa signification. Donc l'ange du châtiment, c'est une figure qui est familière dans la littérature apocalyptique, non seulement dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi, j'ai cité tout à l'heure l'Apocalypse d'Élie, mais il y a aussi bon nombre d'autres textes, et y compris chez les grands prophètes d'Israël, où on retrouve cette figure de l'ange du châtiment. Et dans le livre d'Hénoc, j'ai remarqué ce verset, je cite, « J'ai vu là passer les troupes d'anges du châtiment portant des verges et des entraves de fer et de bronze. J'ai demandé à l'ange de la paix qui m'accompagnait, vers qui vont ces porteurs de verges ? Il m'a répondu, vers leurs élus, et leurs bien-aimés, pour les jeter dans l'orifice de l'abîme. Alors le gouffre sera rempli de leurs élus et de leurs bien-aimés. Il sera mis un terme aux jours de leur vie. Les jours de leur tromperie ne compteront plus. » C'est dans le livre d'Hénoc au chapitre 56. Et donc, là, les anges du châtiment, eh bien, ils vont s'attaquer à leurs élus. C'est-à-dire que ce sont les bien-aimés dont parle le livre d'Hénoc, ce sont les rejetons des anges déchus. Ici, leurs élus, ce sont les élus des puissances du mal, comme par opposition, les justes sont les élus de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de très caractéristique, c'est que Satan et ses légions, ayant la haine des hommes, eh bien, ont pour but, ont pour mission de détruire toutes les âmes humaines. Et donc, quand ils vont être libérés de l'abîme, eh bien, ils vont détruire leurs élus, ceux qui leur appartiennent. Ces anges de l'Euphrate donc sont libérés pour accomplir leur mission de destruction et mettre à mort le tiers des hommes. Et dans le récit de l'Apocalypse, donc suit la description d'une armée impressionnante, il faut le dire. Une fois déliés, ces anges sont prêts à intervenir. Et c'est la description donc du deuxième malheur. Au moment fixé, il est fixé par la volonté de Dieu, bien sûr, exprimé par la voix venant de l'autel qui se trouve devant Dieu dans les cieux, et il nous est dit que l'action destructrice, eh bien, elle est limitée. Elle va frapper le tiers des habitants de la terre, ceux des habitants de la terre qui ne portent pas sur le front la marque d'appartenance à Dieu. Et là encore, on retrouve cette même caractéristique, c'est ce qui fait que, bien que par sa miséricorde et sa patience, Dieu donne le temps aux hommes de se retourner vers lui, même ceux qui ont le cœur endurci, eh bien, il arrivera un moment où il n'y aura plus de retour possible et le jugement intégral s'accomplira. Mais les fautifs sont les hommes qui s'endurcissent, qui ne veulent pas renoncer à leur endurcissement de la même manière que Pharaon continuait à s'endurcir malgré les avertissements de Dieu donnés sous la forme des plaies versées sur l'Égypte. Alors, ils continuent à blasphémer le nom, ils continuent à se vautrer dans leur idolâtrie et à ne faire montre d'aucun repentir. La description des troupes de la cavalerie, là c'est vraiment impressionnant, on parle de deux myriades. Ça fait, si on traduit, 200 millions de membres de cette cavalerie infernale. Bien sûr, ce ne sont pas des êtres de chair, ce sont des esprits déchus qui sont libérés avec les anges, les quatre anges en question, et qui vont exterminer leurs semblables parmi les hommes. C'est une troupe absolument considérable, innommable. Et bien ces créatures... Ces esprits déchus, ces créatures surnaturelles, eh bien, elles sont les instruments de la colère de Dieu. Alors, il y a plusieurs interprétations de cette troupe, notamment l'un des commentateurs que j'ai cité à plusieurs reprises, Philippe Play, en fait une interprétation tout à fait différente dans son livre sur les grandes énigmes de l'Apocalypse et la clé des symboles, au chapitre qui se rapporte au septenaire des trompettes. Donc je vous invite, si cela vous intéresse, à vous reporter à cette lecture. Il y a encore là donc une description absolument terrifiante, celle des cuirasses des cavaliers, de feu, d'hyacinthe et de soufre, et les chevaux aux têtes comme des têtes de lions, dont les bouches vomissaient feu, fumée, soufre. Ben, feu, fumée, soufre, hein, c'est des ingrédients du châtiment divin. Hein. On retrouve à plusieurs reprises ces trois expressions liées au châtiment divin, à l'exercice du châtiment divin. Et là aussi, on retrouve, parce que bon, c'est une image familière du châtiment divin, on la retrouve plusieurs fois tout au long de l'Écriture. Par exemple, en Genèse 19, où les villes de Sodome et de Gomorre sont frappées d'une pluie de soufre, de feu, et d'où monte une fumée comme la fumée d'une fournaise. Alors, ces chevaux, si on suit la description, sont d'autant plus redoutables qu'ils nuisent à la fois avec leur bouche, hein, puisqu'ils sortent de leur bouche, comme je l'ai dit, feu, fumée et soufre, et aussi avec leur queue, parce que leurs queues sont munies de têtes de serpents. Mais néanmoins, on est encore dans l'ordre des signes annonciateurs du jugement, puisque seul un tiers des hommes est frappé et que la possibilité d'une repentance existe encore. Vous avez dans le livre du Deutéronome et dans le livre d'Exode, et l'idée de refus de se repentir, l'idée de continuer à pratiquer l'idolâtrie, l'idée d'endurcissement du cœur. Parce que là, c'est exprimé de manière différente, dans une perspective eschatologique dans l'Apocalypse, mais dans l'Ancien Testament aussi, la thématique de l'endurcissement du cœur, elle tient une bonne part, et puis l'endurcissement du cœur, nous renvoie aussi à toute la lutte spirituelle à l'intérieur de l'homme. Alors le lien entre la sixième trompette et la sixième coupe, maintenant, dans les deux cas, on remarque la présence du grand fleuve Euphrate. En Apocalypse 9, 13 et verset suivant, il s'agit de libérer quatre anges captifs sur le grand fleuve. À la sixième coupe, il est parlé de l'assèchement de l'Euphrate pour permettre le passage des rois qui viennent de l'Orient. Et entre-temps, trois esprits impurs sortent des trois bouches, celle du dragon, celle de la bête et celle du faux prophète. Esprits impurs qui accomplissent, bien sûr, des prodiges. Et par le fait qu'ils accomplissent des prodiges, eh bien, ils subjuguent les rois de la terre pour les enrôler, pour les rassembler en un lieu qui s'appelle Armageddon, pour combattre l'armée du Christ. Parce qu'il y aura, on le verra dans les chapitres ultérieurs, on verra qu'il y a le grand combat entre les deux armées, celle du dragon et des rois de la terre, et celle du Christ, et le combat sera gagné par l'armée du Christ. Il est à noter donc que le verset 12 du chapitre 16, donc septenaire des coupes, nous indique que c'est Dieu lui-même qui assèche le grand fleuve Euphrate. Pour ouvrir le passage, là aussi, cette idée d'assèchement C'est le passage de la mer Rouge. Il y a plusieurs fois dans l'Écriture cette idée d'assèchement d'un obstacle naturel, assèchement dont Dieu a l'initiative pour permettre un passage. Et bien là, c'est pour permettre le passage des rois qui viennent de l'Orient. Ils sont donc les chefs des armées célestes qui vont, on verra plus loin, qui vont combattre aux côtés de l'agneau. Et de l'autre côté, je cite, « Ce sont en effet des esprits des démons, ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier afin de les rassembler pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. » Chapitre 16, verset 14. Donc c'est bien une guerre eschatologique qui se prépare, puisque elle va opposer, comme je le disais, l'armée des rois de la terre à l'armée du Christ. C'est la mobilisation des forces du mal avec la sortie de la bouche du faux prophète des trois esprits impurs qui sont ici comparés aux grenouilles, qui est considéré comme un animal impur dans la loi mosaïque, et qui nous renvoie à la deuxième plaie d'Égypte, en Exode 8, versets 1 à 11, où la multiplication des batraciens infestèrent tout le pays. Alors ces esprits impurs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des esprits des démons qui accomplissent des signes. Leur nature, elle est intrinsèquement mauvaise, bien sûr, et ils ont une certaine forme de puissance qui tient dans le fait qu'ils ont la capacité à accomplir des prodiges pour subjuguer les hommes. Et ça, c'est une marque de Satan et de ses légions tout au long de l'histoire du monde. Ils abusent les hommes. Et c'est pour ça que beaucoup vont les suivre. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans le septenaire des coupes au chapitre 16, c'est le verset 15 que nombre de commentateurs interprètent comme une interpolation, parce que ça interrompt la suite de la narration, ça interrompt rapidement, mais c'est quand même une interruption. C'est le verset 15, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. » Mais si on y réfléchit bien, ce verset, il a toute sa place dans cette narration des coupes. Parce que on a déjà vu cette thématique des vêtements et de la nudité. On l'a vu quand on a considéré les épîtres aux sept églises. L'avertissement, par exemple, qui avait été laissé à l'église de Sardes, qui était en grande décadence spirituelle, en Apocalypse 3, verset 3. Et autre avertissement, adressé cette fois à l'église de Laodicée, au verset 18 du chapitre 3, où le Christ recommande à l'église de Laodicée d'acquérir un vêtement blanc, parce que sa nudité, en vérité, est honteuse. Et donc, l'acquisition de ce vêtement blanc lui est recommandée. Elle doit se purifier et elle doit retrouver l'ardeur de sa jeunesse. Donc, garder ses vêtements, c'est synonyme de s'abstenir de toute proximité, de toute complicité avec l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, là, elle est liée à la bête. Elle est liée à la bête. On rend un culte idolâtre au dragon, la bête de la mer. On rend un culte idolâtre à la bête de la terre, qui est issue de la bête de la mer, donc du dragon, comme le fait le serviteur, le faux prophète, le serviteur de la bête de la terre, et comme le feront tous les hommes qui s'adonnent à l'idolâtrie. Parce que la thématique de la bête de la terre, on verra ultérieurement, c'est une désignation symbolique qui rend compte véritablement de pans entiers de l'histoire humaine, dans tous les temps, bien sûr. Alors la septième trompette, maintenant, et en regard la septième coupe, il faut attendre la septième trompette, c'est donc le troisième malheur, non pas en suivant celui de la sixième, parce que dans le récit, la septième n'est pas accolée à la sixième, la description du fléau de la septième trompette ne suit pas immédiatement celui de la sixième trompette, mais il faut attendre le chapitre 11 à partir du verset 15. Et néanmoins, au chapitre 10, un ange avertit qu'au jour où l'on entendra le septième ange, quand il commencera de sonner de sa trompette, alors ce sera l'accomplissement du mystère de Dieu, comme il en fit l'annonce à ses serviteurs, les prophètes. C'est le verset 7 du chapitre 10. Et il est précisé au verset précédent, le verset 6, à ce moment-là, il n'y aura plus de délai. Plus de délai. Et pourtant, la sonnerie de la septième trompette est comme retardée, en quelque sorte, par le fait qu'elle ne suit pas et derrière, immédiatement derrière la sixième. Pourquoi ? Parce que ici est répété une sorte d'intermède, comme nous l'avions vu d'ailleurs au chapitre 7. Et là est mis en exergue l'importance du ministère des prophètes dans l'eschatologie, l'annonce prophétique, l'importance de ce ministère prophétique. D'ailleurs, le chapitre 11 lui-même est largement consacré au ministère prophétique, avec le récit des deux témoins qui ne sont pas nommés, mais qui ce sont des prophètes, et ce récit donc nous renvoie à l'importance du ministère prophétique. Mais j'en reparlerai ultérieurement, parce que ça fait partie d'un ensemble qu'il faudra approcher d'assez près. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'au début du chapitre 10, donc on revient au septenaire des trompettes, un ange puissant tient dans sa main un petit livre ouvert. Petit livre ouvert. C'est pas la première fois qu'on rencontre cette thématique du livre ouvert. Mais là, il nous est dit que c'est un petit livre. Biblarion, qui est lui-même un diminutif de Biblarion. Eh bien, ça donne peut-être l'indication que une révélation est proche, par le fait qu'il est ouvert, bien sûr. Et l'ange du chapitre 10, il est, si on suit la description, il est d'une dignité tout à fait exceptionnel, hein, puisque il est dit, Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, comme un arc-en-ciel, au-dessus de la tête, le visage, comme le soleil et les jambes, comme des colonnes de feu. Pour une part, d'ailleurs, on retrouve ce visage, donc, dont l'ange enveloppé d'une nuée, et le visage comme le soleil. On n'est pas loin de la description du Christ transfiguré avec qui resplendit comme le soleil, le vêtement blanc éclatant. Donc cet ange a une dignité particulière parce que là, avec la septième trompette, on arrive à un aboutissement. Il y a donc l'idée d'une révélation qui est proche, puisque le livre est ouvert et la dignité de l'ange revêtu d'une nuée, ça nous renvoie aussi à Daniel 7. On retrouve une description semblable dans Daniel 7 avec celle du Fils d'homme au verset 7 de Daniel chapitre 7. En même temps, on peut faire un parallèle. Établir un lien entre le livre qui est scellé dans les chapitres précédents, le livre qui est scellé, les sept sceaux, donc ça c'est le premier septenaire, le septenaire des sceaux, le rouleau scellé de sept sceaux, et la question qui est posée, mais qui pourra ouvrir ce rouleau? Et on connaît la réponse, c'est l'agneau immolé et triomphant qui a reçu la dignité d'ouvrir du Père des cieux, donc d'ouvrir ce rouleau du jugement divin. Donc il y a d'un côté le livre scellé et de l'autre côté le petit livre ouvert. Ce livre, ce petit livre ouvert, bien sûr, on retrouve, hein, c'est un rouleau qui est écrit dans les chapitres précédents, recto verso, donc on ne peut rien y ajouter. Les décrets divins y sont intégralement consignés et rien ne peut y être ajouté. On avait vu hein, dans l'Apocalypse 1,16. Et donc, en quelque sorte, le petit livre ouvert, eh bien, il contient un accomplissement eschatologique et christocentrique, parce que ça nous renvoie aussi à l'agneau. Et dans le premier cas du livre scellé, il était tenu dans la main de Dieu, et là, il est tenu dans la main d'un ange. Le premier était tenu dans la main de Dieu et remis à l'agneau, et là, il est tenu dans la main d'un ange et est donné au voyant pour qu'il le mange. On retrouve là, évidemment, un thème qui est déjà présent dans le livre d'Ézéchiel, comme nous le savons tous. Quel est son contenu à ce petit livre ouvert? Eh bien, d'abord, il y a l'ordre, prends et mange-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il aura la douceur du miel. Donc c'est le verset 9 du chapitre 10. Alors tous les commentateurs remarquent qu'il y a un double aspect dans ce verset. Il y a à la fois l'idée de la douceur de la parole de Dieu, mais aussi l'amertume du ministère prophétique, parce que évidemment, si la parole de Dieu est douce, au cœur du prophète, eh bien, l'exercice de la mission du prophète, elle, est difficile, pleine de dangers, pleine d'amertume, souvent. Parce que les prophètes ne sont pas écoutés, ils sont incompris. Nombre d'entre eux ont été mis à mort. Vous voyez, il y a ce double aspect. Il y a aussi, toujours selon nombre de commentateurs, la douceur de l'annonce du salut, mais aussi l'amertume de l'annonce du jugement. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La douceur de l'annonce de l'élection, mais aussi l'amertume de l'annonce de la persécution. C'est une note de la Tob, d'ailleurs, qui le fait remarquer fort justement, ça, cette alternance, ce double aspect que l'on trouve dans ce verset, entre la parole de Dieu, le ministère prophétique, l'annonce du salut, l'annonce du jugement, l'annonce de l'élection et l'annonce de la persécution. On parle là aussi de rugissement du lion, ce qui est une image dans l'Ancien Testament qui souvent caractérise la voix de Dieu. En Joël, chapitre 4 de Joël, en Amos 3 et en Osée 11, et je rappelle bien sûr que le Seigneur Jésus lui-même, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, reçoit le titre de lion de Juda. On parle de lui comme le lion de Juda. Et puis il fait mention des sept tonnerres. Le tonnerre, c'est à la fois le symbole de l'Esprit Saint, comme on le trouve en Apocalypse 4. Ça nous renvoie aussi à l'idée d'une proclamation divine, d'un message divin, céleste, en Jean 12, dans l'Évangile. Ça traduit aussi la plénitude de la souveraineté de Dieu, la présence de Dieu au monde. Et il nous est dit que, au verset 4, que le message ne doit pas être divulgué. Garde secret le message des sept tonnerres et ne l'écris pas. Alors, ça veut dire que Saint Jean, dans la vision, il a entendu et compris l'essence même du message, mais il lui est commandé de garder secret le message des sept tonnerres et de ne pas en divulguer le contenu. Et enfin, il y a surtout le serment de l'ange, il n'y a plus de délai, plus de délai. Et donc là, ça veut dire que les choses arrivent à leur point final. L'achèvement étant décidé, rien ne pourra plus désormais le retarder. La fin est fixée, c'est ça la signification de cela, la fin est fixée, le plan de Dieu, tel qu'il se déroule dans l'histoire des hommes et du monde, le dessein de Dieu, eh bien, il arrive à son terme, et son terme, c'est celui du jugement. Car Dieu conduit son dessein du début jusqu'à son terme, donc son dessein, il est orienté, il a un commencement, il y va à son terme. Et le terme là, c'est le jugement. Donc les deux témoins du chapitre 11, là je passe rapidement dessus. Pourquoi ? Parce que j'y reviendrai. Parce qu'il y a des choses très importantes qui sont mentionnées. Ce sont des prophètes. Ces deux témoins, ils prophétisent. Et ça met en valeur la place éminente de la prophétie dans le plan de salut. Dans le plan de salut de Dieu pour, en faveur des hommes. Et là, il nous est dit qu'il prophétise sur les nations, peuples, langues et rois, c'est-à-dire pour le monde entier. Et il est évoqué la notion de mesure avec l'apparition de durée. Bon, il y a déjà l'idée de mesure qui renvoie au temple, de mesure de ce qui appartient à Dieu et ce qui est en dehors de toute mesure, qui n'est pas le monde de Dieu. Et dans ce chapitre, il y a l'évocation de durée. Par exemple, l'occupation de la ville sainte de 42 mois, avec sa correspondance sur le temps de la prédication des deux témoins, des prophètes, 1260 jours. Et puis, d'autres évocations de mesures sur lesquelles je reviendrai, c'est-à-dire les 3 ans et demi, la moitié de 7, qui marque l'inaccompli, le 7 étant le chiffre, un chiffre qui nous renvoie à la notion d'accomplissement et de plénitude. Mais je vais revenir dans une leçon ultérieure sur ces chiffres symboliques, sur la portée de ces chiffres symboliques, et parce que ils appartiennent à un ensemble qui va du chapitre 12, 13, 14, 15 et jusqu'au chapitre 17, c'est-à-dire chapitre 12 où on va voir la vision de la femme et du dragon, le chapitre 13, donc la bête de la mer, le dragon qui transmet son pouvoir à la bête de la terre, et la deuxième partie du chapitre 13 qui concerne le faux prophète au service de la bête de la terre, l'apparition de l'agneau avec l'annonce de l'heure du jugement, de la vendange des nations et le châtiment de Babylone au chapitre 17. Donc ça, c'est un ensemble thématique qui doit faire l'objet d'une leçon en entier. Je termine donc avec la septième trompette qui, elle, est une vision de gloire, comme à la suite des deux témoins dans le ciel, qui rappelle de qui nous rappelle, qui est à mettre en regard avec la vision céleste en laquelle Saint Jean est en présence lors de l'ouverture des sceaux, au chapitre 4, les 11 premiers versets. Les 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu et qui rendre grâce. Et le moment là est venu de détruire ceux qui détruisent la terre, nous dit la septième coupe. On est ici en présence d'une... Alors là, on peut le dire vraiment du point final, d'une récapitulation plus exactement de l'ensemble du septennaire. La victoire de Dieu sur le monde, elle est saluée par les 24 vieillards, et la royauté, là, elle passe au Seigneur et à son Christ, la royauté sur le monde passe au Seigneur et à son Christ, et on voit, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux cœurs, celui des quatre vivants, on les a déjà vus, les quatre vivants, hein, autour du trône de Dieu, et les 24 vieillards. On a vu hein, la prière des quatre vivants, la prière des 24 vieillards. Les premiers, et ces deux cœurs se font écho en quelque sorte, les premiers célèbrent la souveraineté de Dieu sur le monde, celle du Père et de son Christ, et les seconds, eh bien, évoquent, magnifient les attributs éternels de Dieu. Et tout cela se joint pour arriver au règne de Dieu sur le monde dans le récit de l'Apocalypse. Donc il y a en quelque sorte un balancement symétrique entre les deux cœurs qui concerne le thème de la royauté de Dieu, non seulement sur le ciel, mais sur toute la création, le ciel et la terre. Et les vieillards évoquent bien sûr l'opposition des nations et le temps du jugement, et c'est la conclusion du septennaire des trompettes qui est le temps du jugement de Dieu sur le monde. À cette occasion, donc, au verset 19, on voit la symbolique du temple réapparaître, ainsi que celle de l'Arche de l'Alliance, temple qui fut construit, je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'un modèle céleste révélé à Moïse en Exode 25, et l'arche étant du témoignage, étant renfermant les tables de la loi reçues au Sinaï, et le temple étant le lieu où Dieu manifeste sa présence, sa gloire. Hein ? Vous trouverez des références en Exode 25 et en Hébreux 9. La symbolique du temple est très importante dans l'Apocalypse, mais là je vais terminer très rapidement sur cet aspect parce que je vais y revenir quand nous en serons en Apocalypse 21 où elle réapparaît, justement cette symbolique du temple. Là, finalement, c'est le lieu d'adoration perpétuelle des élus, de tous les justes qui, dans les générations, ont plu au Seigneur et qui sont élus. Et c'est de ce temple céleste, d'ailleurs, que sortent les anges qui vont déclencher, nous voyons à la fin du chapitre 15 et au début du chapitre 16, qui sortent, ces anges qui sortent de ce temple céleste et qui vont déclencher le septennaire des coupes. C'est en 15, versets 5 et 6. Donc la septième coupe, on peut la mettre en résonance avec la septième trompette, ou inversement, la septième trompette avec la septième coupe, et j'en conclue là. Il y a une accélération dramatique, bien sûr, parce que là, il n'y a plus de place pour la retenue, contrairement à la septième trompette. L'ange répand sa coupe dans l'air, la voix du temple dit « c'en est fait ». Point final, c'en est fait. Éclair, voix, tonnerre très violent, tremblement de terre, et la grande cité se divise en trois parties, et c'est en même temps la chute des cités des nations. Entre parenthèses, donc il y a des grêlons qui tombent au moment où il y a des éclairs, des voix et des tonnerres, et pour en rendre compte, on parle d'une mesure qui est le talent. Le talent. Et l'unité de mesure du talent, ça correspond à peu près à 40 kilos. Donc vous voyez, des grêlons de 40 kilos, ça laisse pas grand-chose de vivant quand vous avez une forte pluie de grêlons de cette importance qui tombe. Et ensuite, donc, ce sera le châtiment de Babylone au chapitre 17. Donc la prochaine fois, nous verrons justement cet ensemble qui va de 11 à 17. Bien sûr, j'omettrai le chapitre 16 puisque j'en ai parlé avec le septennaire des trompettes, mais j'ai dit en commençant que on n'était pas dans une succession chronologique d'événements, mais dans le cadre d'une interpénétration thématique de différentes choses. Donc, il ne faut pas être surpris que différentes unités littéraires au sein du livre de l'Apocalypse s'interpénètrent et que l'on puisse sauter d'un chapitre à l'autre et, au contraire, revenir sur des chapitres précédents également. Voilà, merci de votre attention.